Welcome to the thriller in Manila, Ali versus Frazier, for the most coveted sports award in the annals of mankind.
Dès son arrivée face aux caméras, Ali en remet une couche. Après l'oncle Tom, il compare Frazier à un gorille. Il s'amuse devant les journalistes à cogner la figurine d'un singe et lâche une de ses plus célèbres répliques.
And I wrote a sharp poem. It says it will be a killer and a thriller and a killer when I get the gorilla in Manila.
Arrive la 14e reprise, l'un des rounds les plus connus de l'histoire de la boxe. L'œil de Frazier est presque fermé, son visage enflé. Ali a encore assez de lucidité pour taper. Et après la 14e reprise, Frazier est assis dans son coin, la bouche en sang. Le médecin s'approche de lui, l'observe et lui conseille de jeter l'éponge. Mais il ne veut pas abandonner. Dans un sursaut d'orgueil, il se relève. Son entraîneur le dissuade. C'est terminé. Mohamed Ali vient de gagner le combat le plus brutal de l'histoire.
La voix de Nicolas Jamin, je vous invite à écouter ce fabuleux podcast RMC Panthéon pour revivre les années de Mohamed Ali. Celle-ci, c'était 75, l'épilogue de l'une des plus grandes rivalités de tous les temps. Ali bat Frazier à Mani, la fin d'une trilogie de dingue. En 71, au Madison Square Garden, Frazier avait battu Ali de retour sur les rings après avoir refusé d'aller à la guerre au Vietnam. Sa première défaite, il prend sa revanche en 74 avant cette belle dramatique aux Philippines, remportée par Ali alors que Frazier ne voulait pas que son coach jette l'éponge. C'était un an après la victoire d'Ali à Kinshasa, dans un combat mythique face à George Foreman, Ali dira « Frazier m'a obligé à me dépasser comme personne auparavant, je peux le dire au monde entier, c'est un grand homme ». Ali est-il devenu le plus grand sportif de tous les temps à Manille il y a 50 ans? C'est la question que j'aimerais vous poser. David Douillet, tiens, parce qu'on parle de sport de combat mythique, Ali, Frazier, c'est un truc qui t'a marqué, qui t'a emmené peut-être Ali au Panthéon définitivement?
Non seulement ça m'a marqué, mais ça m'a fait prendre conscience de toute la beauté et la noblesse du duel, en fait, et de ce qu'on appelle le duel. Deux hommes face à face, il y en a un qui, c'est symbolique évidemment, il y en a un qui va mourir et un qui va survivre, voilà, c'est ça. Et cette symbolique-là m'a marqué en tant que gamin, et m'a, je dirais, influencé.
Ah oui,
motivé, c'est un grand mot, mais en tout cas m'a fait prendre toute la mesure et la grandeur de ce que je trouve que c'est la quintessence de la compétition un peu. Voilà. Et le duel, c'est quelque chose d'unique et de fantastique. Et eux le symbolisent parfaitement. Et à l'époque, effectivement, c'était le plus grand athlète du monde, évidemment.
Marc.
Moi, j'ai été surtout marqué par le premier combat Ali-Frazier en 71.
C'était le retour d'Ali. Hein.
C'était le retour d'Ali, c'est celui que j'ai le plus en mémoire. Les deux suivants, beaucoup moins. Mais il n'empêche que, oui, Mohamed Ali, c'est quand même grand champion, la star des stars qui traverse le temps, en fait.
C'est le plus grand, François?
Alors, ce sera forcément un des plus grands au fil des siècles. Mais je pense qu'il restera franchement dans l'histoire. Après, on a des grands qui s'installent au Panthéon, mais qui s'effacent un peu avec le temps.
Et pourquoi il a quoi? Il a quoi, Ali?
Il a une personnalité, il a une vie, un engagement, et tout cela fait que ça contribue à sa légende. On sort du cadre purement sportif des combats. On est dans autre chose.
On est dans autre chose avec Ali. Fred, tu l'as croisé, Mohamed Ali?
Alors moi, j'ai mangé en face de Mohamed Ali.
Ah, et oui.
C'était à Sydney. Et en fait, alors c'était
en 2000.
On n'était pas sur en 2000. On n'était pas sur la même table, mais il était la table juste à côté. Et il y avait un attroupement d'un seul coup. Et d'un seul coup, tout le monde s'en va. Et là, je me suis rendu compte que c'était une aura extraordinaire. En fait, il était déjà malade. Et je me suis rendu compte que je le regardais avec la bouche ouverte.
C'est Ali.
Parce que c'était tellement impressionnant de le voir, mais il dégageait quelque chose. Mais vraiment, quand je parle d'une aura, c'est Je n'exagère pas. Il avait cet attrait incroyable, ce magnétisme. Je trouverais même pas les mots parce que j'étais très impressionné. Et moi, quand je pense à Ali, je pense pas à ce combat-là. Je suis désolé. Moi, c'est Rumble in the Jungle.
Contre Foreman, Lisa Kinshasa.
Et quand tu connais vraiment l'histoire, tu sais qu'il a fait des coups un petit peu très moyens à Foreman pour préparer.
Même avec Frazier, hein, il a été horrible avec.
Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai du mal à le mettre dans les plus grands, un peu pour ça, et aussi parce que je trouve que c'est subjectif. Parce que pour moi, le plus grand des plus grands, c'est Michael Jordan.
Oui,
c'est ultra subjectif. Mon sport passe avant ça, mais c'est vrai qu'il avait un magnétisme incroyable.
Simon,
Il y a quand même une facilité contemporaine à revisiter l'histoire, parce que Mohamed Ali serait cloué au pilori si il était s'il évoluait à notre époque.
Quand ah bah avec tout ce qu'il a dit
aux déclarations, parce que là moi où je rejoins Fred, c'est que en effet face à Foreman, il y a une dimension un petit peu je sais pas comment le dire, un petit peu moins sérieuse, un petit peu moins dramatique que tout ce qui a entouré la belle face à Frazier.
Il y a quelque chose de toxique dans leur relation.
Souvenir, il y a un écrivain afro-américain qui avait qualifié ce combat de duel entre un révolutionnaire et un esclavagiste, parce que Frazier était surnommé l'oncle Tom, notamment par Mohamed Ali, parce que il était soutien de Nixon et il était considéré par certains comme un traître à la cause noire, là où Mohamed Ali.
Ali
était...
disait en gros Frazier est à la botte des blancs.
Voilà,
en
fait, exactement. Et Mohamed Ali, lui...
Frazier l'aurait voulu jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs.
Voilà. Et Mohamed Ali, dans un autre genre, était quand même un radical. Un activiste radical. Et tenait des propos qui, à notre époque, ne pourraient pas être entendables. Là où il y a, évidemment, cette dimension légendaire, historique, c'est que ce combat, c'est l'invention du pay-per-view. Aux États-Unis, c'est
payé pour regarder un combat.
Il fallait payer pour regarder un combat. C'est diffusé dans 70 ou 80 pays dans le monde, c'est une dimension, ça donne à la boxe une dimension universelle, mais il y a malgré tout quand même une part d'ombre chez ce grand champion. On rappelle, il a quand même perdu 4 fois dans sa carrière, un Floyd Mayweather a jamais perdu par exemple.
Mais à l'époque,
on n'en parle pas. Donc il y a quand même tout autour de ce débat sur le plus grand de tous les temps,
il y a
une dimension, un narratif, voilà, on a quand même un petit peu édulcoré un personnage qui était très clivant et qui, encore une fois, à notre époque, je pense, n'attirerait pas autant de sympathie au plan universel.
Parce qu'on n'est pas aux mêmes époques aussi, parce qu'à l'époque, la boxe, on disait quoi ? On disait qu'il y avait les trois personnes les plus importantes du monde, c'est le pape, le président des États-Unis et le champion du monde poids lourd. Aujourd'hui, c'est forcément un petit peu moins le cas, puisque la boxe a un petit peu régressé. Allez, c'était un petit retour en arrière, mais ça donne toujours des frissons de se replonger dans l'histoire d'Ali. D'ailleurs, je vous invite, les fans de sport, si vous l'avez pas fait, regardez le documentaire Thriller in Manila de John Doerr, sorti en 2008. Vous pouvez le voir sur tous les réseaux. C'est sur l'histoire de cette rivalité avec Frazier, et franchement, c'est absolument prodigieux.